Vous êtes à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3. L'hebdo d'aujourd'hui s'intéresse à la politique du logement en France. Nous attendons Jean-Baptiste Hérault. Eh bien, il y a deux manifestations aujourd'hui à Paris. Une à 14h30 au départ de la place de la République en solidarité avec ce que vivent à l'heure actuelle les Palestiniens. Et puis, une deuxième manifestation, la Confédération paysanne organise une grande mobilisation revendicative entre 14h et 19h pour un revenu paysan et pour protéger l'environnement. Ça y est, on va pouvoir commencer l'hebdo. Jean-Baptiste Hérault est arrivé. Alors, je vous confirme que vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3. L'hebdo d'aujourd'hui s'intéresse à la politique du logement en France. Notre invité, donc Jean-Baptiste Hérault du DAL, Droit au logement. Alors, la crise du logement que beaucoup de personnes vivent actuellement est traduite en chiffres par le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre. 26% des ménages ont eu froid chez eux en 2023, contre 14% en 2020. 767 000 interventions pour impayés d'électricité en 2022, 553 000 en 2019. 93 000 ménages prioritaires d'allô en attente de relogement en 2022, 78 000 en 2021. 330 000 personnes sans domicile, 143 000 en 2012. 9 157 000 personnes sous le seuil de pauvreté en 2021, 8 565 seulement, et c'est déjà pas mal, en 2020. 8351 personnes en demande non pourvue au 115 chaque soir, dont plus de 2822 mineurs. Le 2 octobre 2023, 6351 personnes, dont 2087 mineurs un an auparavant. 2,4 millions de ménages en attente de logement social en 2022, 2 millions en 2017. 93 000 logements sociaux financés en 2023, 125 000 en 2016. 166 milliards d'euros de crédit immobilier sur 12 mois en octobre 2023, 271 milliards un an auparavant. 295 000 logements mis en chantier sur les 12 derniers mois en novembre 2023, 371 000 en 2022. Bon, je pourrais continuer comme ça pendant encore longtemps. En tout cas, on voit bien que d'une année sur l'autre, ce qui pourrait être fait en faveur des ménages qui recherchent un logement, qui ont besoin d'un hébergement, toutes ces mesures-là ont beaucoup diminué en un an. Et donc, nous revenons sur cette situation inquiétante avec Jean-Baptiste Hérault de Droit au logement.
Bonjour.
Bonjour à toi, Jean-Baptiste.
Excusez-moi, j'étais retardé, il pleut beaucoup. Et, voilà.
Et en vélo, c'est pas évident. Alors, je vais commencer, Jean-Baptiste, par te demander des nouvelles du campement de personnes mal logées ou à la rue qui s'est tenu place Jacques Bainville au métro Solferino depuis le mois de décembre. Où en est-il aujourd'hui et quelle est la réponse de l'État?
Alors, la réponse de l'État, absolument aucune. Sauf si, enfin, quelques propositions assez honteuses, où on envoie des familles qui sont prioritaires d'allo, qui ont un emploi, qui travaillent ou qui sont en formation, qui ont des enfants qui vont dans les écoles, etc., et qui vivent là depuis des décennies. Donc la proposition de l'État, c'est de les déraciner d'office, parce qu'ils ont, au prétexte qu'ils n'ont pas de logement, quoi, et de les renvoyer à Lyon, Besançon, Bordeaux. Voilà la proposition qu'on a eue il y a une quinzaine de jours de la part de l'État. Donc on a refusé, les familles ont refusé, bien sûr, on dit non, pas question. Pour certains, on est né là, on vit là, on reste là, enfin, tu vois, c'est aussi simple que ça. Et donc, là, on voit qu'il y a vraiment, une logique de bras de fer qui est installée par l'État, soit une incapacité aujourd'hui à répondre aux situations d'urgence, parce qu'on voit de plus en plus de gens sans abri dans les rues. Voilà. Donc, alors, où en sont les familles? Eh bien, elles ont décidé, on a pris la décision avec elles, de suspendre l'installation temporairement, parce que, bon, plus de 2 mois, ça fait 70 jours dans le froid, sous la pluie. Bon, c'est fatigant, plus quand il faut gérer toute la vie quotidienne, tout ça. Donc, on a dit, on suspend. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va démonter aujourd'hui ou demain l'installation. Et on suspend le campement. Donc, les familles vont aller à droite, à gauche. Hein,
elles ont trouvé des solutions.
C'est des bricolages. Ça reste excessivement précaire. Mais on va continuer la mobilisation pour reprendre, on va dire, courant avril. Voilà, courant avril, à l'approche aussi des JO. Bon, et puis des élections européennes, et bon, qui sera une façon d'interpeller, de rappeler aussi la situation de la crise du logement en France que subissent des millions de personnes. Voilà où nous en sommes. En tout cas, il y a toujours une forte détermination, mais en disant « Hey, on fait une pause là, s'il vous plaît, là on se repose, parce que là on n'en peut plus, fatigue, tout ça. » Donc, et on reprend, en élargissant d'ailleurs aux autres prioritaires d'allo, etc., et on va aller vraiment sur le combat, on veut un logement. Oui. Bon, l'hébergement, ok, l'État n'a pas voulu. Nous, on pensait d'ailleurs honnêtement qu'en quelques jours, le problème serait réglé, sincèrement. On a dit, bon, ils ont quand même trouvé quelques hébergements. L'État met 3 milliards d'euros dans l'hébergement aujourd'hui, plus de 3 milliards. C'est une gabegie. C'est bien parce qu'il y a des gens à l'abri, mais ça ne résout pas le problème de fond. Et surtout que les politiques qui sont conduites en parallèle produisent massivement du sans-abrisme.
Justement, on peut se demander quelle est la vision de la politique du logement par le gouvernement et son nouveau ministre Guillaume Gasparian, auteur de la loi anti-squat, dont tu nous rappelleras peut-être au passage le contenu. Exact. Et puis bon, du coup, c'est quoi cette vision bizarre du logement en France ?
C'est une vision répressive, en fait. C'est une vision, on protège la rente, on protège le profit, on protège les soi-disant les petits propriétaires. À mon avis, on ne les protège pas beaucoup parce que en fait, ils sont exposés beaucoup plus qu'avant à des risques d'impayés de loyer. Plus les loyers sont chers, plus il y a des risques d'impayés. Hein, c'est une évidence. Et d'autre part, surtout, on protège les groupes financiers, les gros investisseurs qui veulent faire de l'argent sur ce besoin fondamental, ce besoin essentiel qui est celui de se loger. Et donc extorquer le maximum d'argent sur le dos des classes populaires, parce que ne l'oublions pas, c'est les locataires qui sont de plus en plus, issus des ménages des classes populaires. Les revenus des locataires sont en baisse, en règle générale. Ceux qui ont pu accéder à la propriété, bon, bah, ils ont été. Hein. Et voilà, donc on a une paupérisation en fait, des locataires. Donc le système, il ne marche pas. Il est intenable. De toute manière, il va produire, en l'état actuel, du sans-abrisme massif et par ailleurs, également, des expulsions en très grand nombre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le 1er avril, on manifeste encore, dans le cadre de la journée européenne Housing Day, et surtout de la fin de la traite hivernale en France, on va manifester le 1er avril et on espère que les locataires, les sans-logis, les mal-logés vont s'unir. Il faut, je crois qu'on n'a pas tellement d'autres solutions. Il faut s'unir et descendre dans la rue.
T'as l'impression que tous les gens qui sont touchés par le mal logement ont justement cette volonté de se rassembler, ou est-ce qu'ils se sentent au contraire complètement disséminés dans la comme un peu des électrons libres, voilà, ne sachant pas exactement comment.
C'est toujours le même problème, c'est que la question du logement, elle est vécue actuellement en France comme un problème personnel. Donc voilà, il faut se débrouiller, on va trouver des solutions personnelles. Or, il y a aussi, c'est le fruit quand même de très très mauvaises politiques du logement qui ont encouragé les inégalités, la rente et le profit. Alors, peut-être j'ai pas répondu sur Casbarian, parce qu'il faut quand même dire quelques mots sur cette loi scélérate qu'il a pris, qui dit deux choses. La première, on vire les squatteurs par tous les moyens, le plus rapidement possible. Voilà. Et si besoin, on les envoie au correctionnel. Donc, ils ont supprimé tous les délais de procédure, etc., etc. La deuxième chose, c'est qu'ils ont, généralisé pour l'occupation de logements vacants. Il faut quand même le préciser. Ce n'est pas des loges de résidences secondaires ou des résidences principales comme on a voulu nous le faire croire. C'est des logements ou des locaux inoccupés. C'est ces occupants-là qui sont sans logis, qui n'ont pas de solution pour se loger, qui vont aller se réfugier, se mettre à l'abri. Bon, bah, voilà. Alors, au pire, la prison. 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Voilà ce que nous a mis en place l'actuel ministre du Logement, mais aussi une accélération des expulsions locatives. Donc pour les locataires en impayés de loyer dans le secteur privé, donc là à nouveau on soutient la rente, hein, et donc dans le secteur privé, accélération des procédures. Et puis pour le locataire qui ne part pas de son logement après l'expiration de tous les délais, etc., etc., eh bien, il peut être poursuivi avec une amende qui peut se monter jusqu'à 7 500 euros. Voilà. Alors, pour l'instant, on n'a pas eu de cas de situation comme ça, mais on sent que ça va arriver. Mmh. Et puis, on a ce contexte aussi. On pense que cette loi, elle n'est pas non plus venue par hasard. Sans doute, la question des JO, il faut qu'on dégage les locataires le plus vite possible pour faire du fric pendant 2 mois. Bon, et on balance, on distribue massivement des congés ventes, des congés reprises, souvent frauduleux d'ailleurs, hein, parce qu'en réalité, les bailleurs, ils vont louer à des touristes. Ils le disent d'ailleurs, même qu'ils le disent, ce qui est complètement illégal.
Qu'est-ce qu'on appelle les congés reprises ? Parce que congés ventes, ben, on donne congé et puis on revend l'appartement.
Vendre, prétendument pour vendre. Oui. Bon, mais en réalité, ils vont relouer. Mais il y a aussi reprise, c'est-à-dire pour installer quelqu'un de sa famille.
Oui, d'accord.
Bon, un descendant ou ascendant direct. Mais il n'empêche que on a des cas de figure où on a des propriétaires où ils ont 2 ou 3 logements et distribuent des congés reprises parce que c'est plus simple. C'est plus simple. Bon, il y a moins de garanties à fournir aux locataires. Mmh. Donc là aussi, c'est de la fraude. Et la fraude est massive dans les rapports locatifs, dans les zones tendues. Les bailleurs profitent de l'impunité dont ils bénéficient, de l'absence de contrôle et donc de fait de sanctions.
Mmh. Alors, les propositions de ce ministre, tu peux revenir là-dessus aussi la politique du logement, c'est parce que ça, on reste un petit peu quand même assis quand on entend certaines choses.
Ben oui, effectivement, là, on va dire qu'il y a un certain nombre de reculs, de régressions là, qui sont annoncés, qui ont été annoncés par Attal pendant son discours de politique générale. Bon, et qui vont sans doute être prises par Casbarian, parce qu'il est là pour ça. Donc, on détricotait la loi SRU, c'est-à-dire l'obligation pour les municipalités d'avoir 25% de logements sociaux en 2025. Bon, et en l'absence d'un plan régulier de réalisation de cet objectif, enfin vers cet objectif, des sanctions, etc. etc. Alors, qu'a dit Attal ? Eh bien, on va considérer que le logement intermédiaire pour les classes moyennes aisées, le haut du panier, sera considéré comme du logement social. Alors, c'est un peu un non-sens, parce que si on loge les classes moyennes dans du logement aidé par l'État avec des loyers relativement bas, et les promoteurs, etc., ils vont faire quoi ? À qui ils vont vendre leur logement ? On se demande. Alors bon, là, effectivement, ils ont prévu aussi pour, on va dire, sauver un peu les promoteurs, les aider, parce que bon... Donc ils ont prévu aussi de racheter, ils demandent à la Caisse des dépôts et consignations, donc la banque de l'État, de racheter les biens immobiliers que les promoteurs n'arrivent plus à vendre. Bon, donc parce que les gens ont plus le fric pour acheter, voilà. Alors le taux d'intérêt on peut remonter, tout ça, ça fait qu'il y a eu la tranche de ceux qui pouvaient accéder à la propriété peuvent plus. Bon, voilà la petite tranche là. Donc les promoteurs sont plantés, mais pas tant que ça. Alors, il y en a qui vont disparaître bien sûr. Dans toutes les crises, il y a des secteurs ou des sociétés qui disparaissent. Mais les grosses sociétés comme Nexity par exemple.
Bah, qui pleurent beaucoup quand même Nexity.
Qui pleurent beaucoup et qui fait savoir. Mais quand on regarde son chiffre d'affaires et ses profits, ils sont supérieurs pour 2023, ils sont supérieurs à 2019.
Oui, bon. c'est
donc ça va, la vie est belle quand même. Alors c'est les perspectives. Oui, c'est les perspectives. Donc comprenez, il ne faut pas qu'on disparaisse. Après, la question va se poser. Nous, on dit souvent promoteur-prédateur. Pourquoi ? Parce que le promoteur, il est au milieu, en gros, il va négocier le terrain avec le maire, etc. Il va dire, tiens, je vais te mettre des gens, des accédants à la propriété, il faut mettre un peu de logement social, ok, je t'en mets, tatati. Et il va construire, il va édifier. Mais il va édifier un truc qui n'est pas forcément de très bonne qualité, parce que lui, c'est one shot, il vend. Il vend, puis c'est fini, après, t'as un peu la garantie décennale, tout ça. Mais on voit plein de programmes de promoteurs qui, au bout de quelques années, ne fonctionnent plus. Pourquoi ? Parce que tu as à la fois le côté, on va baisser un peu les prix sur les coûts de production, etc. Et puis les entreprises aussi, les entreprises du bâtiment font ce qu'on appelle la sous-traitance en cascade. C'est-à-dire qu'elles vont proposer à d'autres entreprises, de venir faire le travail à leur place. En échange de quoi, elles prennent une marge, bien sûr, un profit, etc. Et c'est en cascade. Et quand on arrive au bout de la chaîne, on a des gens qui ne sont pas très qualifiés, qui sont payés selon les normes du pays d'où elles viennent, parce que c'est des entreprises qui viennent assurer un service, et avec des matériaux de mauvaise qualité. Donc le résultat des courses, c'est qu'en plus, on produit, on va dire, de la M. Voilà, de la M, voilà, pour rester poli. Et c'est malheureusement le système dans lequel on est, c'est-à-dire on fait presque... c'est ce qu'on avait appelé... On avait dit, c'est de l'obsolescence programmée presque. C'est-à-dire qu'ils s'assurent que dans 10 ans ou dans 15 ans, hop, allez, on va recommencer, on va foutre en l'air ou on va raser un peu tout ce qu'il y a là-dedans. Et puis voilà. Et donc, on marche sur la tête, mais c'est le système capitaliste qui veut ça. Et surtout, l'exacerbation du système capitaliste et la puissance qu'il a pris aujourd'hui à tous les niveaux. Quoi.
Musique. Loin du bonheur et des îles, où la misère prend ses aises, près du haut loulou pressé, se console avec des scies. Plus de chemin, plus de repères que des raccourcis. Pour la plupart piégés. Quand se nourrir est un film, et nourrir les tiens ton rôle, la rue te donne quelques scènes tirées de mauvais scénarios. Pour un coup, elle peut te fournir tous les plans possibles. Mais pour demain, qui sait. Je veux du soleil. Je veux du soleil du pays. Je veux de soleil. Sur le bitume tant chéri. Rien de neuf dans ma rue. Juste une allée d'aller à pas d'avenir. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Rien de neuf dans ma rue. Juste une allée à pas d'avenir. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Quand on n'a rien d'autre à faire, on la pratique par défaut. Y'a que ceux qui n'ont pas touché le fond qui en parlent comme d'un trophée. Ni de première, deuxième place ici. Plus t'y es, plus tu perds, tu perds, tu perds. Quand elle est tout ce que l'on a, on rêve d'autre part. Parce qu'elle a tout ce que l'on aime, même éloigné d'elle, on l'aime. Elle nous grandit, nous en dit long sur ce qui est à venir. Tout pour mieux la quitter, quitter, quitter. Je veux du soleil. Je veux du soleil du pays. Je veux de soleil. Sur le bitume t'en chéris. Rien de neuf dans ma rue. Juste une allée d'aléa, pas d'avenir. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Qu'est-ce qu'elle y connaît? Qu'est-ce qu'elle y connaît? Rien de neuf dans ma rue. Juste une allée d'aléa, pas d'avenir.
Du coup, la mixité sociale qui est toujours mise en avant, elle en est où ?
Oh, la mixité sociale, ça n'a jamais été notre...
Parce qu'on nous parle tout le temps de mixité sociale, ouais. Où il faut vraiment qu'il y ait un brassage.
Il faut mélanger les classes populaires, tout ça, ouais. Bah, évidemment, parce que les riches... Alors, d'abord, il faut quand même dire que les riches sont moins nombreux que les classes populaires.
Ah bon ?
Il faut le rappeler. Non, alors, donc, un. Et deux, bah, les riches, ils savent s'organiser aussi pour empêcher qu'il y ait trop de pauvres qui viennent habiter. Ouais, classe pauvre, classe dangereuse.
Mmh, tout faut à fait.
Il ne faut quand même pas l'oublier. Mmh. Bon, les émeutes en France, le mot émeute, ça vient du mot émotion populaire. Émotion populaire, ça vient du Moyen-Âge. Et bah, la France, l'histoire de France, c'est parsemée d'émeutes, à commencer par la plus connue, la prise de la Bastille. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, les riches, les bourgeois en France ont peur un peu du peuple. Mmh. Donc, il faut l'envoyer plus loin, il faut le disperser, il faut l'opprimer, voilà, et il faut le faire travailler quoi qu'il arrive, il faut le faire travailler et le payer le moins cher possible et puis le laisser vivre dans des conditions misérables. C'est un peu ça, au fond, on va dire, le credo du gouvernement actuel. Mmh.
Si bien qu'effectivement, les communes qui sont assujetties quand même à un certain pourcentage de logements sociaux, finalement, ben, ils ne répondent pas à ces critères-là.
Évidemment.
Et ils ne sont pas nécessairement sanctionnés.
Non, mais sanctionnés, ça, oui, ouais. C'est Neuilly, voilà. Vincennes, Saint-Maur, etc. Et d'autres, bon, et beaucoup sur la Côte d'Azur aussi. Et donc, qui ne veulent pas qu'il y ait de logements sociaux dans leur commune aussi. Pour l'autre aspect, c'est l'aspect, bah, si on n'a que des riches, on a moins de dépenses. On a moins de dépenses sociales. Il ne faut pas l'oublier. Parce que les riches, ils vont dans les écoles privées. Ils n'ont pas besoin d'aller en colonie. Ils vont dans des clubs de sport privés, etc. etc. Il n'y a pas besoin de les aider. Voilà. Et donc, c'est aussi cette logique-là. D'ailleurs, c'est pour ça que Neuilly était connu. Bon, là, maintenant, ce n'est plus le cas parce qu'il n'existe plus. Mais les habitants de Neuilly payent la taxe d'habitation la moins élevée de France. Bon, et normalement, voilà. Donc, bon, maintenant, il n'y a plus de taxe d'habitation. Mais c'est pour dire que là, on a vraiment une logique à la fois, une logique de durcissement à l'égard des classes populaires. Et vraiment, on le voit aussi en termes de production de logements sociaux qui chutent, comme tu l'as indiqué tout à l'heure. Les bailleurs sociaux qui ont des difficultés financières. Donc les perspectives ne sont pas très bonnes, hein, très clairement. Donc il va falloir se mobiliser, il va falloir être très vigilant aussi sur les droits des locataires. Y compris les locataires de logement social, les locataires du secteur privé, on pense, et puis tous les acquis, on va dire, qui sont le fruit un peu des luttes des locataires depuis plusieurs décennies.
Les droits, c'est dans les cartons de menacer les droits des locataires ?
Oui, on sait qu'on a une loi sur le logement social qui va arriver sur les attributions de logements sociaux, ou d'ailleurs, en passant, on va renforcer le clientélisme municipal, parce que le maire va pouvoir choisir ses pauvres, oui, en quelque sorte, hein. On a aussi, pourtant ça a échoué, il y a eu une tentative en 92 et il est apparu dans le 92, ouais, donc un peu le paradis du clientélisme, enfin un des paradis du clientélisme en France, et donc où il est apparu que les maires qui avaient hérité des droits de réservation, des droits d'attribution de l'État, qui sont importants, parce que l'État, lui, il va reloger les prioritaires d'Allo, il va loger les publics prioritaires. Traditionnellement, c'est comme ça. Et donc, il a filé ses droits de réservation à titre expérimental à l'ensemble de communes du 92. Bah, évidemment, les maires, ils ont tous fait du clientélisme. Ils ont tous fait du clientélisme. Et du coup, ils ont été obligés de reprendre. L'État s'est bien rendu compte que, par exemple, pour loger les prioritaires d'Allo, c'est-à-dire droit au logement opposable, personnes qui sont menacées d'expulsion, sans relogement, les personnes qui sont en surpeuplement, très mal logées, ou les personnes sans logis, et qui ont fait une demande de logement social, ces personnes-là doivent être logées prioritairement si elles sont reconnues par une commission ad hoc. Donc là, les maires, évidemment, ils faisaient pas le boulot dans le 92. Évidemment, ils logeaient qu'ils avaient envie de loger, quoi. Donc les enfants de leurs copains, je sais pas quoi, bon, clientélisme à tous les étages. Hein.
Mais là, maintenant, c'est acté le fait que les...
Non, pas encore. Il y a une loi qui va arriver. Donc c'est cette loi qu'il va falloir surveiller, comme le lait sur le feu, parce qu'en plus, ça peut vite déborder, quoi. Quand on voit bien que il y a des tentations, hein, du côté des conservateurs, de l'extrême droite, qui soutient aussi évidemment la propriété bâtie et la rente locative. Il y a des velléités de dire, de toute façon, c'est la propriété qui compte. Mais comme on dit souvent, le droit de propriété, le premier droit de propriété pour un être humain, c'est quoi ? C'est son corps. C'est celui-là qu'il faut protéger. Le droit de propriété, le vrai droit de propriété, d'abord, le premier, primordial, c'est le corps des gens. Le corps, même si tu es pauvre, l'État doit te protéger. Et il doit te protéger contre les terribles conséquences sur la santé de laisser des personnes dans la rue, des questions de précarité, ou de les mettre dans des logements d'un mètre 80 sous plafond, en sous-sol, etc.
Alors justement, j'allais te demander que tu nous dises un peu quelles sont les conséquences du mal-logement en termes de santé physique et mentale.
Alors là, c'est difficile, parce que justement, il y a eu peu de travail qui a été fait sur la question. Mais on a quand même le Haut Conseil à la santé publique là, qui avait travaillé un peu sur ce sujet. Il y a eu quelques études médicales. Mais on sait que de toute façon, les mauvaises conditions de logement... Alors pour les sans-abri, l'absence de logement conduit à un décès au bout de 15 ans. C'est ce qu'on appelle 15 ans d'espérance de vie. Donc 15 ans dans la rue, en moyenne, conduit au décès. Conduit à la mort prématurée, bien sûr. De la même manière qu'on observe que les sans-abri décèdent à l'âge moyen de 48 ans ou 49 ans. Donc là aussi, on est sur une forme de condamnation à mort. Ça, c'est clair, quand on laisse les gens dans la rue, qu'on les met dans des situations de précarité, on les met dans un gymnase un certain temps et on les refout dehors, etc. C'est clair que c'est une condamnation à mort avec torture. Avec torture, parce qu'on souffre en plus quand on est dans la rue. Après, il y a les conditions de logement, mauvaises conditions de logement. Donc là, on a les conditions de logement qui ont été examinées au 19e siècle, hein, et qui ont été dénoncées à la suite d'une série d'épidémies qu'il y a eu en France, comme le choléra, etc. etc. Bon, et où les conditions d'hygiène et de surpeuplement facilitaient le développement des épidémies. Bon, donc ça, c'est démontré. Et on a eu quand même le Covid, qui a aussi démontré que les mauvaises conditions de logement avaient beaucoup d'incidence sur la santé des personnes, sur l'équilibre des ménages, des familles. Les violences conjugales se sont développées, etc., ou même les violences sur les enfants, et les dégâts psychologiques. Bon, mais il y a aussi l'aspect de quand tu vis dans un logement, une chambre avec 4 lits superposés, tu payes tous les mois ton lit et tu vas aller bosser le matin et tu reviens tard le soir, c'est marchand de sommeil. Là aussi, tu produis à terme des troubles psychologiques. Et puis quand tu mets les personnes dans des sous-sols, il y a de l'humidité, etc. Donc là, c'est les
affections
respiratoires.
Ouais.
Manque de lumière, c'est la dépression, etc. Enfin, je veux dire, c'est clair que la question du mal-logement, aujourd'hui, elle est un peu sous-estimée, d'autant plus que le gouvernement a pris une circulaire, un décret, le 29 juillet dernier, qui autorise la location de logements en sous-sol, de logements de 1,80 m sous plafond et de logements de moins de 2 mètres de large. Voilà, donc c'est logement exigu, enterré, ouais, etc.
Alors dans
qu'on a
une cellule,
de lumière naturelle là-dedans.
Mmh.
Oui, c'est une cellule, ouais, clairement. Mmh. C'est une cellule. On met les classes populaires en prison. Voilà, et en plus, il faut payer et travailler. Donc c'est une forme de punition, quoi. T'es pauvre, t'es puni.
Mais cette crise du logement, cette vision politique du logement, elle est pas nouvelle. Elle s'est comment elle s'est mise à s'installer.
Alors, faut bien comprendre que en France, on a eu pendant la Première Guerre mondiale, je vais aller vite, hein, mais pendant la Première Guerre mondiale, on a eu un moratoire des loyers. Les loyers ont été suspendus, comme d'ailleurs pendant la Commune de Paris. Qu'il faut le rappeler, d'ailleurs, a commencé. Quelques jours après que les Versaillais demandent et exigé que les locataires parisiens payent les 9 mois de loyer de la guerre et du siège. Parce que les loyers avaient été suspendus pendant la guerre et le siège. Et là, fin mars, vous devez payer. Et voilà, là le résultat. Bon. Donc les locataires sont descendus dans la rue. Mais en 1914-18, c'est pareil, suspension du paiement des loyers. Et à la fin de la guerre, par le contexte politique général, qui était différent de celui d'aujourd'hui, les révolutions, les syndicats qui montaient en puissance, la bourgeoisie industrielle qui avait pris le pas sur la bourgeoisie rentière, qui avait produit les armes, tout ça. Donc ils ont baissé les loyers de manière considérable. Donc d'une part, les loyers ont été exonérés, les loyers de la guerre ont été exonérés pour les locataires modestes, et d'autre part, ils ont considérablement baissé. Et ça, c'est une situation qui a duré jusqu'en 1948. En 1948, il y a une loi. Alors, les loyers étaient très bas, d'ailleurs. Même la propriété bâtie, comme il s'appelait, les bailleurs à l'époque, a eu du mal. Arrivait même plus à entretenir son patrimoine. On avait, et même jusque dans les années 70, on avait des classes populaires dans les quartiers bourgeois parisiens. Parce que depuis 70 ans, les loyers étaient bas, etc. Bon, ben voilà, donc... on avait des classes populaires dans les quartiers bourgeois. Et puis, la loi de 48 a régulé les loyers, a mis en place une obligation, une contrainte pour les bailleurs de limiter les niveaux de loyer. Donc, en fonction du confort, de la surface, etc. Et surtout, le droit au maintien dans les lieux. L'impossibilité de virer son locataire s'il a jour de ses loyers. Voilà, c'est aussi, bon, il fait pas chier le voisinage, quoi, ou s'il n'entasse pas des tonnes et des tonnes de trucs, ou insalubrité, etc. Bon, donc, voilà, ça c'est la loi de 48 et 86, soutenue par les milieux d'immobilier, qui dénonçaient, donc, la stagnation des loyers, etc., et qui annonçaient une grève des locations. Bon, il y a eu une petite fronde comme ça, un peu bidon, des milieux de l'immobilier avec en tête Bouygues. Mmh. Bouygues, c'est Bouygues qui a organisé tout ça. Et la première loi que Chirac a fait en 86, c'était de dézinguer la loi de 48 et de déréguler les rapports locatifs, c'est-à-dire de s'installer sur le modèle anglais, c'est-à-dire... on fait un mois, il y a on réduit la durée du bail. Deuxièmement, on peut donner congé à son locataire sans motif particulier à la fin du bail. On peut augmenter le loyer autant qu'on veut au moment du renouvellement du bail, etc. Donc une précarisation très forte. Mmh. Hein. Et donc, voilà, ça, c'était la première loi. Et d'ailleurs, pour remercier Bouygues de l'avoir aidé à aller au pouvoir, il lui a vendu TF1. Ça, hein, c'est ces petites histoires-là qu'on oublie. Bon. Et depuis, si vous voulez, on a une petite stagnation. Il y a une loi qui a des socialistes qui est un peu modérée, mais qui n'est pas revenue sur l'encadrement des loyers sur la loi de 48. Ils ne sont jamais revenus dessus. Donc le résultat, il est qu'aujourd'hui, à la suite d'une série de dispositions et puis d'encouragements, de politiques publiques qui ont encouragé le logement cher, qui a encouragé l'investissement locatif, la spéculation immobilière, la spéculation foncière, enfin tout ça, ça a amené à la situation qu'on connaît aujourd'hui, où jamais le logement a été aussi cher dans notre pays depuis le 19e siècle, enfin rapporté, on va dire, à la qualité de la surface d'un logement loué. Mais c'est ça, en fait, c'est que le logement est devenu trop cher pour les classes populaires. Et c'est ça aussi que le gouvernement Macron ne veut pas reconnaître, ne veut pas admettre. Donc il va soutenir les milieux de l'immobilier, il va soutenir les bailleurs, et il nomme Casbarian pour s'occuper de faire ce sale boulot, quoi. Alors jusqu'où ça ira, on ne sait pas encore trop, hein. Il affiche pas tout, hein. Mais il va falloir, je pense qu'il y a un sursaut là. Bon, sinon ça va être un peu dur. Bon, après, s'ils veulent des révoltes des locataires, ils les auront, hein. Ils continuent comme ça et ça va descendre dans la rue, et ça va peut-être pas descendre aussi bien que aussi calmement qu'il le voudrait.
Oui, d'autant qu'en plus de ça, tu as évoqué à plusieurs reprises les Jeux Olympiques, et une population particulièrement touchée, c'est la population étudiante, qui est priée de partir de ces chambres.
Alors là, c'est les étudiants les plus précaires.
Oui.
C'est les étudiants du CROUS.
Les plus modestes, oui.
Ouais. Mais c'est aussi tous les étudiants, en règle générale, hein, qui louent des chambres de bonne, qui s'entassent en coloc, etc. Et donc, voilà. Alors, là aussi, il faudrait que les étudiants se bougent. Là, il faudrait que les étudiants s'y mettent. C'est vrai qu'il y a un potentiel, on pourrait dire, il y a un potentiel de mobilisation. Mais encore faut-il qu'ils entendent qu'en agissant collectivement, ils s'en sortiront plus facilement qu'en restant chacun dans leur coin. Et en cherchant des solutions de moins en moins bonnes, de plus en plus précaires, de plus en plus chères, parce que c'est ça, et avec des logements de pire en pire, dégradation de la qualité des logements fournis. Voilà, alors on espère en tout cas, les JO aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, entraînent aussi beaucoup d'expulsions, et également aussi une politique, on va dire, de déplacement forcé, des sans-abri vers d'autres régions. Mais ce système-là va atteindre ses limites, hein, de toute façon. Et donc, il faut se tourner maintenant. La logique, ça serait d'aller voir du côté de ce qui est vide, de ce qui est inoccupé. Donc, si les gens ne peuvent plus occuper d'eux-mêmes des locaux vacants pour se protéger, alors que l'État réquisitionne. Pourquoi il ne réquisitionne pas ? Il y a la loi de réquisition aussi.
c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même une loi de réquisition, mais elle est pratiquement jamais appliquée.
Non, oui, pratiquement jamais. C'est assez rare. Il y a eu des réquisitions après l'occupation de la rue du Dragon. C'est une occupation qui avait beaucoup de bruit à l'époque. L'abbé Pierre était avec nous, et à côté de Saint-Germain-des-Prés. Bon. Et donc, le Chirac, en période préélectorale et en concurrence avec Balladur, avait dit on va réquisitionner. Il faut appliquer la réquisition, le Pierre l'a demandé. Bon. Donc il a réquisitionné 1200 logements, c'est déjà ça. Mais ils n'ont pas continué, ils ont arrêté. Et les socialistes aussi n'y ont pas été. Donc ils ont trouvé toutes les bonnes raisons du monde, les mauvaises raisons, on va dire, pour ne pas le faire. Résultat des courses, on a une augmentation de la vacance constante. Alors tous les logements ne sont pas vacants depuis longtemps, ou ils peuvent être vacants parce qu'ils peuvent être, avec la crise immobilière, là, ils peuvent être en cours de vente, on ne trouve pas d'acquéreur, ou bien en cours de, parce que le logement est trop cher par rapport au marché, ou je sais pas quoi, ou on ne trouve pas de locataire parce que le logement... Bon, bref, c'est...
Il y a toujours de
il y a bon, toujours de bonnes raisons, ouais. Mais en réalité, la vacance augmente, et entre le début des années 2000 et aujourd'hui, on est passé d'un même le milieu des années 2000, on est passé d'1,8 million à plus de 3 millions de logements inoccupés sur l'ensemble de la France. Et ça ne touche pas que les zones rurales, hein, c'est vraiment diffusé sur l'ensemble du pays. Mm-hmm. Donc il y aurait nécessité, un, de réquisitionner, deux, de renforcer la taxe sur les logements vides, trois, d'aider éventuellement le petit proprio à réhabiliter son bien pour le louer, en échange d'un loyer conventionné, s'il y aura un loyer encadré, quoi. Bon, voilà. C'est les mesures logiques, d'autant plus qu'on est sur un... Les constructeurs disent qu'on n'a plus de terrain pour bâtir, etc. Il y a des lois qui nous empêchent d'artificialiser les sols, tout ça. Mais il y a plein de trucs qui sont artificialisés, déjà, et qu'on peut très bien, sur lesquels on peut très bien construire. Du logement social, bien sûr. Du logement social, pas du logement à profit. Le logement, c'est fait pour loger, pas pour l'argent.
Pourtant, quand on passe dans les villes de banlieue, elles sont pratiquement toutes en chantier avec énormément de construction d'immeubles. Et c'est des immeubles privés, bien sûr,
voilà, la plupart
du temps. Mais ça construit partout.
Oui, particulièrement. Et ça, c'est le principe de l'aménagement urbain, particulièrement dans les quartiers populaires. Parce que les grues, elles ne sont pas dans le 16e ou à Neuilly. Hein. Elles sont dans les quartiers pop. Particulièrement les quartiers de logement social qu'on détruit massivement. Donc il y a une mobilisation d'ailleurs qui est un peu en cours sur ce sujet-là. Les locataires commencent à dire il y en a marre. Les architectes aussi sont mobilisés. Il y a un front qui se met en place. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et j'espère que ça va porter ses fruits. En tout cas, l'Agence nationale de renouvellement urbain qui finance les démolitions... L'ANRU, voilà. Nous, on l'appelle l'ANDRU des quartiers populaires. Et donc, l'ANRU, l'ANRU est un petit peu... en tout cas, elle est interpellée vivement. Ils ne savent pas trop... C'est la première fois qu'ils ont un front aussi large là, qui se met en place. Donc, c'est plutôt bien. C'est une manière... Il faut protéger le logement social. À quoi sert de détruire des immeubles qui sont souvent pas trop mal construits, d'ailleurs ? Enfin, dans la plupart du temps, hein, même ils sont ensemble bien construits, pour faire des gravats, bon, ou pour mettre des gens plus aisés à la place et déplacer des habitants qui ont construit leur vie, leurs relations, leur tissu social, etc., qui ont toujours vécu là. C'est toujours pareil. C'est du déplacement forcé. Hein. Ah non, désolé, tu dois partir, tu dois déménager. Et si tu refuses tes trois propositions, on te fout dehors avec la police. C'est ça un peu le mécanisme dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire il y a une brutalisation, en fait, sur la question du logement des classes populaires qui a commencé, il faut le rappeler, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Chirac, en 86, quand il a abrogé la loi de Méhaignerie, il a lancé la reconquête de l'Est parisien.
Oui,
c'est comme ça que ça s'appelait.
Oui, tout
bon,
à fait.
Bon, voilà, alors au moins il affichait l'objectif, hein, il ne faisait pas semblant, quoi. Bon, c'était déjà ça. Mais là, aujourd'hui, c'est fini. Oui, on tournait ça en disant, oui, on va faire de l'aménagement urbain, blablabla, écolo, je ne sais pas quoi. Et en fait, c'est pour endormir les gens, évidemment, hein. C'est fait pour ça. Mais donc là, le principe de faire de l'argent sur le dos des classes populaires, sur le logement des classes populaires, c'est là... C'est le fondement de la spéculation immobilière et foncière, hein, c'est clair. Hein. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Ils font pas chier les bourgeois. Mmh. Sauf, alors peut-être, il y a la question des dérèglements climatiques, tout ça qui commence à poser problème.
Alors, il y a l'affaire du 115, où les gens téléphonent du matin au soir et ne trouvent rien. Et il y a le fait aussi que depuis longtemps, mmh. on va dire ça comme ça, des familles dorment à la rue avec des enfants, même des tout-petits. Et que ça ne fasse pas bouger une oreille du gouvernement, tu disais tout à l'heure que l'État se doit de protéger ces citoyens, c'est absolument pas le cas. Et cette brutalisation, ce manque d'humanité, je sais même plus comment on peut qualifier ça.
Cruauté sociale.
C'est vraiment une cruauté.
Ouais.
Et là, on passe du clochard qui avait ce côté folklorique en quelque sorte à des familles dans une détresse immense. J'imagine l'angoisse des parents avec un tout petit ou même avec des enfants plus grands, l'angoisse de ces parents qui n'ont pas d'endroit, qui ne peuvent même pas jouer leur rôle de protection vis-à-vis de leurs enfants.
Voilà. Et en plein hiver, etc. Donc, non, mais là, je crois que tu as décrit, un des aspects les plus brutals, hein, des plus cruels des politiques du logement, une des conséquences. Hein. Parce que, si tu veux, on peut dire aussi, d'une certaine manière, que l'habitat de survie, qui est un peu propre de l'humanité, hein, dans son histoire, bon, et qui a produit... Des bidonvilles, des quartiers informels, etc. C'est comme ça que les villes se sont construites, il ne faut pas l'oublier. Et donc, dans un premier temps. Et donc, les quartiers informels sont pourchassés aujourd'hui. On le voit par exemple à Mayotte. À Mayotte, on détruit les quartiers informels des habitants en disant, ouais, c'est des lieux de délinquance, mais tout le monde sait très bien que les délinquants, ils ne sont pas là. Ils sont cachés dans la montagne et c'est les gamins qui ont été abandonnés par l'État français, bon, et qui ont été abandonnés à la mafia. Mais on détruit ces habitations et les gens, on les héberge un peu comme ci, comme ça, et puis voilà. Et parmi lesquels, il y a un tiers de Mahorais, un tiers de migrants avec papier, puis un tiers de sans papier, en gros, c'est ce que dit le préfet. Donc là-dessus aussi... Une forme de brutalité. On n'a pas d'autre solution que de taper, que de cogner, alors qu'il faut des moyens financiers pour assurer la protection sociale des habitants. C'est aussi simple que ça. Sauf que ces moyens, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là parce que on va préférer dépenser son argent à des modes d'hébergement, l'argent de l'État. Il faut quand même rappeler que c'est la TVA qui constitue quasiment la moitié du budget de l'État. Donc, nous participons, même les pauvres participent largement au budget de l'État. Ils payent la TVA. Ils la payent plus que les riches, en pourcentage de leurs revenus. Donc, on a tendance à oublier ça. Alors après, on se plaint, il y en a qui se plaignent, puisque les impôts trop élevés, etc. Ben oui, ça, c'est la petite musique qui a toujours qu'ont chanté les riches. Hein. Ils sont près de leurs sous, quoi. Ils ont un petit côté rapace, là. C'est mon argent, faut pas y toucher, quoi. Là-dessus, c'est ça qui manque. Il faut une volonté publique. Puis alors, l'autre aspect, moi, je dirais... j'espère qu'à un moment donné, les choses vont s'arrêter. Mais je crois que dans le contexte actuel, on n'a pas tellement le choix que d'envisager... d'encourager les personnes locataires, mal logées, en précarité, sans logis. Enfin... tous ceux qui sont aujourd'hui exploités par rapport à ce besoin fondamental de se mobiliser, quoi, de trouver des moments, prendre une après-midi, puis descendre dans la rue avec les autres.
Mais justement, ça pose toute la question du rapport de force des collectifs, des assos de défense du droit au logement. Bon, vous êtes mobilisés, vous êtes très actifs, mais quelle est la puissance de ce rapport de force ?
Voilà, il est relativement faible. On avait de la marge, je dirais, en 2021, on avait fait une série d'actions. On avait occupé des squares avec plusieurs associations. Il y avait Solidarité Wilson, Utopia 56, le DAL, il y avait aussi la CSP, Coordination et Sans-Papiers. Donc il y avait des résultats, parce qu'on avait abouti à l'hébergement de 5000 personnes. Donc c'était bien. Mais là, c'est fini, là. Là, c'est clair. C'est clair que c'est sûr qu'en face, ils ont durci. Ils ont durci. Donc là, comment on va dire, ils ont une pierre à la place du cœur, ces gens-là. Ils laissent crever les gens dans la rue. C'est incroyable, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Il y a un cynisme avec, en plus, la pression, évidemment, idéologique de l'extrême droite qui est libérale. Où il est dit, si t'es pauvre, c'est de ta faute.
Oui.
Voilà. Mmh. Et c'est de ta faute. Et si t'es pauvre, c'est parce que t'es immigré aussi, pour certains, pour ceux avec le racisme, la xénophobie, tout ça. Donc là, on est dans une société vraiment très dure, quoi, qui produit... Enfin, qui ne produit pas de bonheur, en fait. Parce que tout ça, ça fait aussi que même les riches, ils ne sont pas très à l'aise, quoi.
Mais il y a des solutions, quand même. Dans les assos, dans les collectifs comme le tien, comme le DAL, vous voyez des solutions à mettre en œuvre, de poser des exigences qui devraient être entendues
Écoute, là, par exemple, là, on est... Il y a ce décret dont j'ai parlé tout à l'heure, qui autorise la location de logements d'un mètre 80 sous plafond. Mmh. Bon, on a saisi le Conseil d'État, on va voir. C'est un peu hypothétique, hein, mais on a travaillé dessus, etc., avec des juristes, des associations qui nous rejoignent. Bon, on va peut-être obtenir l'annulation, on sera content. Mais c'est sûr que ça ne règle pas la crise du logement, simplement ça va obliger le gouvernement à être, je vais dire, moins cynique, hein, à l'égard des mal logés, parce qu'au fond, c'est quoi son projet ? C'est dire, bon, si on ne peut pas loger les gens dans des logements sociaux décents, on va les loger dans des logements pourris. Des logements qui étaient considérés comme des logements indignes, insalubres, avant le décret. Et autrement dit, d'ailleurs, en passant, on légalise les
marchands
de sommeil.
C'est ce que j'allais te dire, oui, tout à fait. Voilà. Fatalement.
Donc on nous dit, Arro, sur les marchands de sommeil, il faut les mettre en prison et blablabla. Mais en réalité, avec un décret comme celui-là, ils vont justement encourager le métier de marchand de sommeil. Non, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas des perspectives extraordinaires, quoi. Mais je pense qu'on va trouver les moyens de s'unir et de converger, notamment peut-être à l'occasion des JO. Ça peut être un bon moment aussi.
Oui, je pense que les Jeux Olympiques sont un bon tremplin pour faire valoir des luttes, effectivement.
Faire converger un peu.
Oui, absolument.
Bon.
Mais c'est vrai que, on ne termine pas sur une note très optimiste
temps. Il faut quand même pas... Il y a des manifs qui sont prévues. Nous, on va aller au marché international des promoteurs immobiliers, qui se tient à Cannes tous les ans. Bon, on va y aller le 12 et le 13 mars. C'est dans 10 jours, quoi. Et on va aller planter notre tente, là, en face, à côté, tu vois. Puis on va coller des banderoles et tout. Bon, on va voir.
Et les interpeller, oui.
On va les interpeller, mm-hmm. Tu vois. Mais bon, on s'amuse quand on fait ce genre de choses aussi. Enfin, tu vois, on dit, allez, on va... Alors, c'est vrai que ça ne règle pas le problème, mais au moins, on a un certain plaisir, quoi.
Et puis ça vous apparaissait.
Voilà.
Voilà, c'est important.
Voilà, on les chatouille, on les embête, on les culpabilise. Pour ceux qui ont... Et puis... On a aussi prévu avec les familles de Solferino, on fait des raffus toutes les semaines devant le ministère du Logement. Le jeudi, à 14h, devant le ministère du Logement. Donc n'hésitez pas si vous avez envie, venez avec votre casserole et on tape, on gueule.
Tous les jeudis à 14h ?
Voilà.
Bon, c'est noté en tout cas.
Voilà, et puis le 1er avril à Paris, surtout fin mars, on va dire début avril, fin mars, oui, ou début avril, ça dépendra... Mais en tout cas, pour Paris et la région parisienne, bon, ça, c'est un moment de rendez-vous. C'est un moment de rendez-vous. Ça sera à 15h à Bastille, hein, pour une réunion, une manifestation qu'on espère importante. Et on espère aussi que d'autres initiatives de cette nature vont être lancées. Fin mars, début avril, peu importe. Hein, l'idée, c'est pas de tous être ensemble le même jour dans la rue. Mais l'idée, c'est de montrer... qu'un peu partout, en fait, ces questions du logement, elles sont là et elles pèsent de plus en plus lourdement.
Et c'est pas qu'en Île-de-France, c'est dans toute la France, de toute façon.
Bien sûr, là, on a des remontées de partout. Hein, les expulsions, ça va être massif cette année.
Jean-Baptiste, merci. On a réussi à faire cette émission quand même. Ouais. Super. On la retrouvera un peu plus tard sur notre site hebdo-julialor.info. Merci à toi, Jean-Baptiste, d'être venu malgré la pluie, malgré tes problèmes de transport. Et puis, merci beaucoup à Lucien pour la technique. Et donc, ben, il ne reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine.
Et merci.
Merci.
Merci à toi, alors.